Génération Prestart. Génération Prestart. Try again. Try again.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur M57 dans Génération Prestart. Party Try Again. Et toujours autour de moi, mes spécialistes rétro, Martin.
Bonsoir.
Ellie.
Coucou tout le monde.
Et Lionel.
Salut à tous.
Et ce soir, c'est Martin qui s'y colle pour le Versus Mode. Et il va nous parler de
Dragon Ball
ZZZ.
Yes.
Donc j'espère que vous êtes motivés pour écouter cette émission spéciale Dragon Ball. Pour se mettre tout de suite dans le thème de Dragon Ball, on va écouter le thème d'un des personnages principaux.
Le meilleur thème du jeu.
C'est le plus beau, c'est Trunks, avec ses cheveux violets.
C'est Trunks.
Donc le Trunks thème, c'est parti.
M57 Radio. M57 Radio. Try again. Try again.
Toujours sur M57 Radio dans Try Again. Un petit moment pour moi pour vous rappeler, comme d'habitude, que nous sommes en partenariat avec le très bon site culture-games.com et que, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les pages Facebook M57, la page Facebook Try Again, nos différentes pages Facebook pour nous laisser un petit peu vos impressions. Et n'oubliez pas que c'est une nouveauté depuis la semaine dernière qu'on pourra gagner en fin d'émission des CG Codes. Et je donne la parole tout de suite pour l'Insert Coins. On commence à Lionel.
Voilà, donc je vais vous parler un peu de Dragon Ball, mais Dragon Ball dans son ensemble, parce que là, Martin, après, va nous parler de Dragon Ball en jeu vidéo. Moi, je vais un peu vous parler de la saga Dragon Ball, qui est aujourd'hui, on va le dire, pratiquement mondialement connue. À l'origine, donc, c'est un manga de Toriyama Akira. Notez l'accent.
J'admire.
N'est-ce pas ?
Respect.
Bravo.
Paru dans le magazine Shonen Jump, donc qui est en fait un hebdomadaire de japonais de prépublication destiné à un public adolescent. Alors qu'est-ce que c'est que la prépublication ? C'est-à-dire qu'en gros, les mangaka font des...
Mangaka égale auteur de manga, pour ceux qui savent pas.
Égale auteur de manga. Font des chapitres, hein. C'est-à-dire que là-bas ils font des chapitres pour leur manga qui sont diffusés dans cet hebdomadaire. Et si effectivement la série marche, elle peut être après éditée en album. Donc Shonen Jump, on a vu donc Dragon Ball dans Shonen Jump de 84 en 95, à savoir que malheureusement on n'a pas vraiment d'équivalent en France, alors que par exemple
si, moi je dirais le clin de Spirou.
Oui.
Parce que le journal de Spirou, en fait, permet aux gens qui lisent des BD d'avoir chaque semaine une petite partie de l'histoire avec parfois quelques pages, et ensuite ça fait un album, un tome
tout
complet.
À fait, tout à fait. Bah, après, moi, je parlais d'équivalent au niveau de l'univers manga, quoi.
Ah, d'accord. Ouais, non.
Mais
moi, je parlais de l'univers.
Alors que, par exemple, en Allemagne ou aux États-Unis, ils ont eu des équivalents qui n'étaient pas des hebdomadaires, mais des mensuels, qui proposaient justement des mangas chapitrés avec une parution mensuelle et qui, comme tu dis, tu l'as si bien dit, donnait au final, quand on était bout à bout, l'équivalent de l'album
que tu as acheté après,
de l'album qu'on achetait après en album. Donc ils ont été ensuite édités donc en album de 85 à 95, et les séries par contre arrivera en France non pas grâce au manga, mais grâce à son adaptation en dessin animé, diffusée à l'époque dans le mythique Club Dorothée.
Merci Dorothée.
Ouais, voilà. J'avais donc, ma carte de membre Club Dorothée.
Comme t'es toute fière de dire ça.
Ouais. Voilà.
Donc même si cette diffusion d'épisodes tronqués, fortement censurés, est souvent critiquée par les fans, c'est quand même elle qui permettra à la folie Dragon Ball d'arriver en France par les mangas et par les jeux vidéo par la suite. Donc les mangas qui est quand même arrivé seulement en 93. Donc quand même quelques temps après la diffusion dans le Club Dorothée, et aussi par les jeux vidéo, quoi. Donc le premier jeu vidéo à être paru en France, c'était, si ma mémoire est bonne, Dragon Ball sur NES.
Tout à fait, ouais, un des rares jeux NES qui était entièrement traduit en français.
Oui, alors pas forcément bien traduit, mais il a été traduit, effectivement. Bon, après, c'est tout un petit jeu d'aventure, sans trop de prétention, qui fait plus ou moins l'aventure, l'histoire de la série, mais du début de la série, Dragon Ball, en fait.
Astuce pour ceux qui veulent jouer à ce jeu-là, vous pouvez jouer à deux. Alors en fait, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, il y a un seul personnage qui dirige Sangoku, et avec la manette 2, si on appuie sur bas, et ça donne des points de vie à Sangoku. C'est-à-dire que si tu es touché, tu redonnes des points de vie à l'autre. Mais si tu t'es pas à 255 points de vie, après tu meurs. Donc on peut jouer à deux avec un qui remet des points de vie à l'autre, mais c'est juste voilà.
Super le rôle de l'autre du deuxième.
C'est sympa
c'est un petit cheat comme ça. Hein. Moi, je vous en donne.
Tu peux jouer en couple comme ça, la fille, elle donne un coup de main quand même.
En gros, la fille, c'est ça, elle sert à rien. Elle est juste bonne à redonner
les
points de vie.
Ça peut être le contraire. Coup de main. Attends, s'il te plaît.
Oh là. Bon voilà, donc c'était pas une forte réussite, mais c'était le premier qui a lancé une grande série de jeux vidéo, Dragon Ball, tous estampillés Dragon Ball, principalement des jeux de baston, on va dire quand même, il y en a quand même beaucoup dans la liste, mais aussi des jeux d'aventure, des jeux de cartes, des card games aussi. Et des jeux de rôle, quelques jeux de rôle, surtout sur console portable d'ailleurs. Il y en avait, principalement en tout cas sur console portable. Donc
pour les jeux de rôle.
Pour les jeux de rôle, principalement en tout cas pour ceux qui sont arrivés jusque chez nous.
D'accord.
On est d'accord, parce qu'il y en a au Japon. Nous, on en a déjà une flopée disponible chez nous, mais eux, n'en parlons même pas. Ils en ont bouffé du Dragon Ball, mais encore pire que nous. Quoi.
Ah, ils en bouffent toujours et nous aussi.
Et ils en bouffent toujours et nous aussi.
On aime ça.
Des plus ou moins bons. Après, on en reparlera. Donc voilà. Donc aujourd'hui, presque toutes les consoles ont eu le droit, au minimum, à une adaptation du manga de Toriyama. D'après mes recherches, la Nintendo 64 est épargnée, bizarrement.
Ouais.
Ouais. Alors pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est après la folie Dragon Ball, la diffusion dans Shonen, qu'ils ont un peu arrêté? Est-ce que Martin, t'as un début de réponse à ça?
J'ai un début de réponse qui n'engage que mon avis. C'est la simple et bonne raison que Bandai, à ma connaissance, n'a pas beaucoup développé pour N64 et que d'habitude les jeux Dragon Ball sont des jeux Bandai. Voilà, c'est tout aussi simple que ça pour moi.
Je sais qu'il y a eu, c'est vrai ce que tu dis. Maintenant, je sais qu'il y a est-ce qu'il n'y a pas d'autres éditeurs aussi de jeux Dragon Ball sur les versions plus récentes?
Sur les versions plus récentes, tu as d'autres éditeurs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
parce qu'il y a Webfoot, il me semble, qui est Monolith Soft aussi, qui en a développé
System.
Donc il y a pas mal
sur les vieux jeux Dragon Ball. Il faut bien comprendre que le jeu était développé et édité par Bandai, et donc que la N64 était encore à ce stade-là.
C'est vrai que le Bandai est encore aujourd'hui partenaire, par exemple, des Dragon Ball Kai, qui sont la remasterisation des épisodes Dragon Ball Z. Ouais.
C'est marrant parce que moi, quand on me dit Bandai, ça me fait penser aux figurines, aux jeux, et pas du tout aux jeux vidéo, quoi.
Et pourtant, c'est eux qui les font.
Ouais. Et si.
Moi, j'ai une autre explication, en fait, qu'il n'y ait pas eu de portage sur 64. C'est peut-être parce que la version PlayStation n'a pas très bien marché.
Elle était mauvaise.
Le Final Bout, le Ultimate Battle 22.
Ultimate Battle 22,
c'était pareil. Sur Saturn, c'était vraiment une calamité.
Oui, bon, après, ouais. Il y a eu des plus ou moins bons, plus ou moins bonnes fournées, donc après, c'est.
Tout voilà. Est... Ils se sont découragés, peut-être.
C'est possible.
Bah écoutez, merci les garçons pour cette belle intro sur Dragon Ball Z, Z, Z. Je crois que je vais m'amuser à le faire.
Tu vas t'éclater ce soir avec ça, j'ai mis jusqu'à
et
la fin.
Et bah, on va s'écouter une petite musique. Alors, mon c'est rôle va être très dur aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs bizarres à prononcer.
Non, mais je vais t'aider sur ça là si tu veux.
Vas-y.
Alors, en fait, c'est la musique d'introduction du jeu quand on fait le code pour avoir le mode turbo.
D'accord, donc Ome no Dembada.
C'est ce qu'il va dire au début, Gohan.
Et voilà. Allez, c'est parti, on s'écoute ça.
M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Première radio numérique de Lorraine.
Ome no Dembada! Quoi?
Je rappelle que pour les petits chanceux, on a une appli iPhone M57 Radio pour nous écouter directement sur votre iPhone. Et puis il y aura peut-être d'autres petits chanceux un peu plus tard dans l'émission, puisque je vous rappelle que Culture Games vous offre des CG codes. Donc attendez bien patiemment, on va vous donner le mot à taper pour avoir ces CG codes. Et puis on se retrouve tout de suite pour le round 1 de notre Versus Mode avec Martin.
Exactement. Donc moi ce soir j'ai envie de vous parler de la série Dragon Ball Z sur les consoles 16 bits. Donc il faut savoir que sur les consoles 16 bits, à savoir les Mega Drive, Super Nintendo, il y a eu en tout 8 épisodes de Dragon Ball Z au Japon, dont 7 sur Super Famicom, donc l'équivalent de la Super NES au Japon. Dans ces 8 épisodes, eh ben, on compte pas moins de 5 jeux de baston et 3 jeux d'aventure. Donc je vais faire un rapide récapitulatif de qu'est-ce qui est sorti chez les Japonais, dans quel ordre et qu'est-ce que c'est, et en gros pour resituer dans la série quoi. Donc le premier, il est sorti le 25 janvier 1992, ça s'appelle Dragon Ball Z Super Saiyan Densetsu, qui est en fait un jeu d'aventure, un RPG, qui reprend la première partie de Dragon Ball Z, la première saga, à savoir à partir de l'arrivée de Raditz sur Terre jusqu'à la mort de Freezer. Et ceci est une sorte d'RPG qui se joue avec des cartes à jouer au fur et à mesure. Donc ça colle bien avec ce que tu expliquais avant.
Ouais, les cartes game, ouais.
Voilà, c'est ça. Ensuite, le 20 mars 1993, Bandai a sorti Dragon Ball Z Super Butoden, qui est en fait la première version d'un jeu de baston Dragon Ball Z sur Super NES. Et c'était un samedi, pour la petite anecdote. J'aime bien que vous avez aimé ce genre de choses. Et donc là, le jeu en fait reprend à la fin de Dragon Ball normal, c'est-à-dire à la fin du 23ème Tenkaichi Budokai, où Goku affronte Piccolo Daimao avant de le tuer. Enfin non, pas de le tuer mais de le railler sa cause, et ira jusqu'à la mort de Perfect Cell. Donc ça reprend en fait deux sagas larges de Dragon Ball Z.
Quand même.
Et en fait, la même année, 9 mois plus tard, le 17 décembre 1993, un vendredi, au Japon est sorti Dragon Ball Z Super Butoden 2, qu'on a eu en France sous le nom de Dragon Ball Z La Légende Saiyan. Et ce jeu, c'est celui-là sur lequel je vais un peu plus me pencher aujourd'hui, qui reprend en fait les Cell Games plus en fait les OAV 8 et 9. Donc les OAV, ce sont les films originaux de la série qui sont en dehors, c'est-à-dire qu'en
qui suivent pas forcément la trame de l'histoire.
Ça suit pas la trame de l'histoire. On a les mêmes personnages, le même univers, et c'est juste des histoire à part qui sortait généralement au cinéma au Japon.
Bon, des fois il y a des personnages aussi exclusifs à ces OAV.
Justement,
là
en l'occurrence, les deux personnages exclusifs sont Broly et Bojack, sachant que ce qu'il faut quand même remettre en l'esprit des gens, c'est que le jeu il est sorti, comme je vous le disais avant, en décembre 93 au Japon. L'OAV avec Broly est sorti le 6 mars 93 au Japon sous le nom de Dragon Ball Z2 Moteko Kiru Nessun Resan Flow.
Doucement, je prends des notes, attends.
Désolé.
Tu peux appeler?
Non, je peux aussi, mais ça va être long. Et ensuite, Bojack le 13 juillet 93. Et là, je vous épargne le nom japonais ce coup-ci. Bon, pour la peine, ce que je veux montrer en fait, c'est qu'en fait, quand ils ont développé le jeu, en même temps, c'était les OAV qui étaient là-bas chez eux au moment. Donc, ils ont vraiment fait un truc hyper.
Qui collait à la réalité. Collait, ouais,
de manière très forte, quoi. Donc, j'aimerais admirer cette cohérence. Il faut attendre un peu plus tard ensuite, le 29 septembre 1994, pour voir Dragon Ball Z Super Butoden 3, donc la suite, qui lui, en fait, se passe au début du 25e Tenkaichi Budokai, donc les débuts des jeux de boue, jusqu'à la. Ça c'est le début de Boo, en fait.
Ça fait la saga Boo, en fait.
Non, ça fait pas
toute la saga Boo.
Non, parce qu'en fait, tu n'as pas Majin Boo à l'intérieur, tu as juste Boo.
Ah ouais, d'accord.
Si tu veux, ils ont pris le début du 25e Tenkaichi Budokai, ils vont jusqu'à Boo, donc c'est très court. Hein.
Ouais, c'est pas vraiment. Tu miras la saga Boo dans la série, elle représente quand même une grosse proportion des épisodes.
C'est vrai. Et donc ensuite,
Boo, c'est le gros tout rose.
Voilà, ouais. C'est le gros tout rose qui ressemble à un
Boo. Le gros.
Ensuite, est sorti le 24 mars 1995 Dragon Ball Z Shu Gokuden Totsugeki N, qui lui en fait est un RPG qui reprend au tout début de Dragon Ball classique, quand Goku rencontre Bulma qu'il habitait encore avec son grand-père, jusqu'à, ça va quand même, attendez que je retrouve mes notes, que je dise pas de bêtises, il va effectivement jusqu'au combat contre Piccolo Daimao à la fin de la finale du 23e Tenkaichi Budokai. Donc en gros, là où va plus ou moins commencer Dragon Ball Z. Ok.
Oui.
Suite à quoi, 6 mois plus tard, ils ont refait un autre jeu de rôle qui s'appelle Dragon Ball Z Shugokuden Kakesei Hen, qui lui, en fait, reprend justement au même endroit, c'est-à-dire au combat contre Piccolo Daimao, et qui va par contre jusqu'à l'explosion de Namek. C'est-à-dire que
ça, les jeux de rôle, on les a pas vus chez nous. Ça,
non, ils ont jamais été traduits. Par contre, on peut trouver une fan trad du premier jeu de rôle que j'ai cité, qui a été fait par Bessab et jouable en émulateur en français. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez. Donc pour le dernier jeu Dragon Ball Z sur Super Famicom, il a fallu attendre le 29 mars 1996, qui était à nouveau un vendredi, pour voir Dragon Ball Z Hyper Dimension.
Ouais. Alors qui rompait avec la série en fait des Butoden, quoi.
Tout à fait. Voilà. En fait, t'as eu 3 Butoden et ensuite t'as eu Hyper Dimension. Et ils rompent avec la série pour beaucoup de choses. Et ça, je voulais vous expliquer parce que je vais expliquer les différences qu'il y a eu en fait entre ces jeux. J'aimerais encore préciser que en France, on a eu la chance d'avoir les 4 Dragon Ball Z jeux de baston traduits.
Oui.
Édités chez nous parce que les Américains, ils l'ont pas eu à l'époque. Ils connaissaient même pas Dragon Ball.
Toujours avec une traduction faite par le stagiaire au fin fond de son garage. Mais
elle s'appelait Sylvie Baumstein, la traductrice française. Ça a été marqué à la fin des crédits Dragon Ball Z2 et
d'accord. Donc si vous voulez lui lancer des pierres, on donnera l'adresse.
Elle a aussi traduit d'autres jeux où les gens trouveront la traduction très mauvaise. Mais là, c'est pas mon avis. J'aimerais encore remettre en le fait que le premier Dragon Ball Z Super Butoden est sorti en France aux alentours de septembre 93, à savoir en même temps que Mortal Kombat.
Oui.
Pour ceux qui ça donne une petite idée, que la version Mega Drive qui s'appelle en japonais Dragon Ball Z Byu Retsudon et en français Dragon Ball Z L'Appel du Destin est sortie en même temps que Dragon Ball Z Super Butoden 2 Dragon Ball Z La Légende Saiyan en été 94, donc au niveau de juin-juillet 94. Enfin, en décembre 94, donc juste 3 mois après, on a eu Dragon Ball Z L'Ultime Menace. Donc en fait, on a eu deux jeux très proches. Mmh. Les Japonais, ils ont eu beaucoup plus de ce laps de temps que nous, quoi. Mais nous, c'était
ouais,
trop
nous,
proche.
C'est les trades qui sont fait un peu à l'arrache et puis qui ont dû un qui a été retardé, je pense.
Non, en fait, ça marchait tellement bien que ils ont pas cherché pour Noël, ils ont sorti le jeu, quoi.
Ouais, ils ont essayé de nous la fourguer comme ça à la
quoi. Si tu veux, t'as un jeu durant l'été, t'as quasiment à Noël.
Oui,
c'est
marketing.
Un peu abusé, quoi. C'est, ouais. C'est vraiment.
Comme
c'est
d'habitude.
Abusé,
hein.
Quoi. Et en France, par contre, on a dû attendre 2 ans pour avoir Dragon Ball Z Hyper Dimension, donc décembre 96, donc c'est-à-dire qu'on l'a eu 9 mois après les Japonais.
Ouais, alors qu'on avait en fait déjà la Play qui était là.
Voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut surtout retenir de ce Dragon Ball Z Hyper Dimension, c'est que en Japon, ils ont eu un mode histoire et en France, on l'a pas eu. Et ouais. Ça, je suis relativement dégoûté, quoi.
On est très énervé de ce côté-là.
D'accord. Donc je vais vous aussi vous
mais
expliquer.
Alors attends, dans quelle version on n'a pas eu de mode histoire ?
Alors en fait, dans la version japonaise de Dragon Ball Z Hyper Dimension, il existe un mode histoire. Dans la version française, ils ont shooté ce mode.
Dans Hyper Dimension,
pas. Ouais,
le 4.
Donc, mais est-ce qu'il y a pas
une histoire dans Ultime Menace ou justement là ?
Si. Alors ça, j'y arrive justement après où je te fais l'évolution.
Parce que c'est ça, j'avais pas suivi lequel jeu tu étais en train de parler. Donc non, dans Hyper Dimension, on te fait shorter le
Hyper Dimension, on l'a eu en français. OK, c'est bien, mais on a eu pas grand-chose du jeu en fait.
C'est ça, une partie
donc
jeu,
si
quoi.
On n'a pas énormément. Eu la version histoire, il reste la version combat multi.
Voilà.
grosso modo.
Il reste que du fight, quoi.
Ouais, ou du fight même en solo, mais voilà, mais c'est fight solo, mais sans.
Mais c'est beaucoup moins intéressant. Enfin, je veux dire, le jeu, il perd grandement en qualité à mes yeux, quoi. Je veux dire, c'est enlever un mode un joueur pareil.
Bah, surtout que le hyperdimension était sympa à jouer. Bon, il était différent, mais il était aussi assez sympa.
Un peu plus
proche d'un Street Fighter, quoi. Ils sont plus rapprochés, je trouve, de Street Fighter.
Non, pas Street Fighter, de Fatal Fury, de Garou Denzetsu. Et je t'expliquerai après pourquoi. Et par contre, ce qui se passe, c'est que dans le hyperdimension, le mode histoire, tu vois une cinématique au début qui reprenait aussi au début de Raditz, donc au début de Dragon Ball Z, et qui a du calme jusqu'à la fin de Boo, quoi. C'est le seul qui réussit avec ce mode histoire à retracer toutes les trois sagas. Oui. Et donc, pour la peine, dans ce jeu-là, ils ont inclus des personnages comme, justement, Freezer et Cell, quoi.
Et il y avait Majin Buu et tout ça
voilà.
dedans.
Il y a Majin Buu, est-ce qu'il y est?
Majin Buu était dans Hyperdimension.
Exact. Tout comme vous, Trunks, Vegito. Mais donc, selon les versions, en fait, on a eu des personnages exclusifs. Et donc, là, ce que j'aimerais un peu expliquer, c'est que là, j'ai donné le nom de 5 jeux de baston sur console 16 bits. Et chaque version a eu en fait des personnages exclusifs. C'est-à-dire que le premier Super Butoden avait 13 personnages, dont 5 personnages exclusifs. Et quand les suivants, ils ont eu 10 ou 11 personnages. Ce qui est moins. Et qu'au niveau des personnages cachés, ça a toujours descendu. C'est-à-dire que le Butoden 1, il y avait 5 personnages cachés. Butoden 2, il y en avait 2 dans la version japonaise, 0 en française parce qu'il n'y avait pas besoin de faire le code. Dans la version Mega Drive, il n'y a eu aucun personnage caché, mais il y avait 11 personnages. Dans Dragon Ball Z 3, la ultime menace, il y a eu 2 personnages en tout, dont un seul caché. Et dans Hyperdimension, il n'y avait aucun personnage caché et que 10 personnages. Donc plus t'avances dans la série, moins t'as de persos cachés.
Moins il y a de personnages.
Voilà, c'est ça. Peu... Pourtant, il y a eu des versions qui ont eu des personnages assez marrants. Par exemple, on retrouve C16, C18, C20 dans le premier, qui n'apparaissent pas sur les radars vu que ce sont des cyborgs et des choses comme ça.
Mais bon. Ils ont changé cette optique-là après. En essayant de nous refourguer le jeu pratiquement avec juste des persos en plus, quoi.
Voilà, mais ça, je reviendrai un peu plus tard. Ouais. En attendant,
on va faire une petite pause musique. Ouais. Toujours avec les musiques du compositeur de DBZ, c'est-à-dire Kenji Yamamoto. Et on va s'écouter Son Gohan's theme, donc je suppose
le thème de Son Gohan.
Le thème du fils Gohan.
Tout à fait.
Et on se retrouve tout de suite après pour le Versus Mode Round 2. C'est parti!
M57 Radio.
Reparti, on va aborder la deuxième partie du Versus Mode. Avant ça, je vous rappelle qu'en général, il y a toujours un d'entre nous qui essaye d'être sur le chat de la radio M57. Donc n'hésitez pas à vous connecter et à commenter les émissions. Voilà, je redonne la parole à Martin, c'est reparti.
Merci Benelli. Alors je vais en fait vous expliquer ce que c'est qu'un Dragon Ball Z Action Game, un jeu de baston. Et je vais commencer par vous donner les personnages qui ont été exclusifs plus ou moins à chaque version pour dire ce qui a été bien ou pas bien. Donc dans le premier Super Butoden, ils avaient la possibilité de prendre certains Saiyans en version super guerrier et en version normale. C'est-à-dire que comme le jeu commençait avec Son Goku normal contre Piccolo, tu pouvais avoir le choix de jouer Goku ou Goku Super Saiyan plus tard dans le jeu. Et donc c'est le seul jeu où tu as cette différenciation entre les personnages que tu retrouveras sur Goku et sur Vegeta. Les 12 personnages exclusifs à cette version qu'on pourra retenir sont, va être le Dr Gero, donc le numéro 20, C16 qui est aussi un cyborg, et je crois que c'est à peu près tout, parce qu'il y a surtout les personnages non Super Saiyan. Dans Dragon Ball Z2, la légende Saiyan, celui-là que je préfère, on pourra remarquer qu'il y a Minicell qui est exclusif, qu'il y a ensuite les personnages tirés des OAV, comme je le disais avant, donc à savoir
Broly et Bojack.
Broly, Bojack et Zangia, l'acolyte, la femme
de Bojack.
Dans la version Mega Drive, on retrouve Kulolin qui sera jouable. On trouvera aussi Likum, un des membres du
Du commandant Ginyu.
Voilà, du commandant Ginyu. Après, on peut aussi jouer Ginyu qui peut s'interférer en autre personnage. Et qui est-ce qui est encore dedans? Je crois que c'est les seuls qui sont exclusifs face à la version Mega Drive.
Je vous avoue que je nage un peu. Je connais un peu la saga Dragon Ball Z.
Et là, tu perds.
Mais c'est vrai que dépasser Cell, Boo,
Alors on fait du fan service, on fait pas du fan service.
Ah ouais, non mais
ouais,
attends.
C'est clair.
Là, ce soir, t'as des gens qui aiment DBZ qui
ça
parlent entre
sent,
eux, quoi.
On a des spécialistes là.
Ça fait quand même plaisir de vous entendre avec
dans la
une
version,
telle passion.
Dans la version Ultime Menace, donc d'un Ball Z Super Butoden 3, on retrouvera Trunk enfant et non pas adulte qui est exclusif. On trouvera aussi Sangoten, la seule version jouable avec Sangoten sur Super NES. Shin, Dabla qui est aussi le gros bonhomme rouge qui traîne avec Babidi et compagnie.
Celui avec le M sur le front.
Voilà, c'est ça. Donc c'est les 4 persos exclusifs. Et enfin, dans Hyper Dimension, on retrouvera les personnages de fin du jeu en fait. Donc Gotrunks, Vegito qui est la fusion entre Vegeta et Sangoku, et Boo. En version normale, pas Majin Buu.
Oui, aussi. Donc, mais il y avait aussi Majin Buu dans Hyper Dimension.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le nombre de personnages exclusifs a diminué en fait, au fur et à mesure des épisodes. C'est surtout ce point de vue-là que je cherchais à faire. Et donc maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que ça se joue. Parce que d'habitude, on est habitué au jeu de baston, genre la Street Fighter, où t'as un plan où tu peux pas te séparer et t'as que du corps à corps. Et ben là, justement, non, t'as des grands espaces. Et donc, tu peux te déplacer vite d'un bout à l'autre de l'écran. Tu n'as pas une barre, mais deux barres. C'est-à-dire que tu as une barre de vie qui fait que si elle tombe à zéro, tu es mort, et tu as une barre de force. Ta barre de force permet de faire des coups spéciaux. Ouais. C'est l'équivalent en fait des barres. C'est l'équivalent des barres de super qu'on a aujourd'hui dans plein d'autres jeux. Et on retrouve aussi la différence qu'il y a un radar à l'écran pour positionner les personnages. Comme je vous l'expliquais avant, dans le premier Super Butoden, sur le radar, on voyait pas les cyborgs. Vu que ce sont des robots, on peut pas sentir leur force. Les Saiyans ne peuvent pas. Mais par contre, dans tous les épisodes suivants, il y a plus de cyborgs, ou alors c'est 18, mais version femme et pas version cyborg. Donc tout le monde est visible sur le radar.
Oui, et puis il y en a besoin de ce radar puisque tu nous dis qu'on peut se détacher.
Voilà, en fait, tu peux détacher. Tu peux, il y en a un, il peut être dans les airs, l'autre, il peut être au sol, il y en a un, il peut être très loin, l'autre très près. Donc,
ou dans l'eau.
Voilà, tu peux avoir en fait une scission entre les deux personnages qui fait que t'as pas que du corps à corps.
Et donc. D'où originalité.
Et l'écran se split en deux.
Voilà, l'écran se split avec une barre au centre. Et donc, ensuite, comment est-ce que ça se joue? Moi, je vais me focaliser sur Super NES parce que sur Mega Drive, je l'ai pas trouvé génial et que je suis plus un pro Super Famicom qu'autre chose. Donc, il y a un bouton pour donner des coups de poing. Un bouton pour donner des coups de pied et non pas plusieurs comme dans Street Fighter où t'as le choix entre temps fort, moyen, tout ça, t'as un seul bouton. T'as un bouton pour choisir ton plan, c'est-à-dire voler ou pas, aller en l'air ou descendre, et t'as un bouton pour faire des boules de feu.
Ouais,
ce à quoi tu rajoutes encore les boutons L et R, sont les boutons de la manette, pour des déplacements latéraux rapides.
Ouais.
Ok.
Ouais, rusher sur l'autre ou reculer très
voilà.
vite.
Voilà. Et donc si ensuite tu combines le bouton point plus pied, ton personnage va prendre de la force, mais il sera immobile et l'autre pourra le traverser ou le taper à bon vouloir. Donc en fait tu peux augmenter de toi-même ton niveau de force, parce que si tu attends sans que le jeu tourne tout seul, ton niveau de force augmente légèrement. Mais pour le monter plus vite, tu peux appuyer volontairement sur les deux boutons.
Préparer un coup spécial.
C'est un peu bizarre comme combinaison, non? Point plus pied pour faire monter l'énergie.
C'est logique. C'est logique parce qu'en fait, ça te paralyse pour faire n'importe quel autre mouvement.
D'accord.
Oui, tu peux plus rien faire. De toute façon, quand tu concentres ta force, tu concentres ta force, tu peux plus bouger et tu fais
hyper instinctif.
Tu fais monter ton ki.
Et donc, pour voler, c'est un bouton spécial.
C'est le bouton X.
Du coup, le bouton haut de la manette va servir à quelque chose?
Le bouton haut servira pour faire un saut, par exemple.
D'accord.
Pour faire une combinaison, pour faire un coup spécial. Genre, le coup du soleil, c'est le Taioken, c'est bas haut A.
Très bien.
Avec Goku.
Exact.
C'est un exemple. Voilà. Donc ça, voilà comment le jeu se fait. Donc suite à ça, en fait, on va avoir différents types de coups, comme dans un Street Fighter. C'est-à-dire que on va avoir. Alors, ce qu'il faut aussi mettre, et ça c'est très très bien, c'est que dans ce jeu-là, on a un menu qui peut apparaître quand on fait pause. Ensuite, on fait select. On peut aller choisir en fait voir les coups du personnage.
Il y a une liste de coups. Ça c'est
voilà,
très important dans les
coups,
jeux de baston.
Là, tu peux faire apparaître ton personnage et tester le coup à l'écran.
Ouais, ça c'est.
Et donc,
bien,
tu peux tout de suite voir si tu arrives ou non à faire la manipulation et voir ce que fait le coup.
Ouais, parce que l'écart de cercle avant, arrière, bas, gauche, droite, c'est
justement,
sympa, mais
justement,
voilà,
c'est là où en fait on se rend compte qu'il y a trois types de coups. Il y a les coups avec, comme tu disais, quart de cercle avant plus point par exemple, ou bien et ensuite tu as quart de cercle avant plus boule de feu. La nuance, c'est que le coup avec boule de feu va manger ta barre de force.
Oui.
D'accord. Alors que le coup avec point pied, non.
Non, oui, c'est ça. C'est les coups qui consomment du ki, c'est généralement les coups qui consomment, qui voilà. utilisent l'énergie, les boules
voilà,
d'énergie.
C'est ça.
Et les ensuite, tu as encore
les super qui font des super boules de feu, genre les Kamehameha, les Mazenko. Donc là, là, par contre, la manipulation est identique pour tous les personnages, à savoir que le méga coup. Un peu fort, c'est le demi-tour derrière la balle avant plus le bouton A, et que le méga coup super super fort, genre le méga Kamehameha, et ben c'est un quart de cercle du bas vers l'arrière puis avant A. C'est des choses qui pour nous maintenant ça me semble super simple, mais à l'époque c'est hyper compliqué.
Est-ce ouais, que pas évident, ouais. les coups du coup donc qui utilisent cette barre de ki vont toujours être plus favorables que des coups plus
pas
simples?
Pas forcément. Alors ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est qu'il y a deux utilisations possibles. Si tu les fais au corps à corps, ton personnage va s'immobiliser et va sortir le coup. Mais par contre, tu as la merci de l'autre de manière très facile. Mmh. Alors que si tu splits l'écran, parce que tu as une distance certaine en haut ou en bas, eh ben là, l'écran va se figer, va aller réellement se séparer, et donc on va voir l'animation de ton personnage lancer l'attaque, et là, ensuite voir l'animation de l'attaque arriver sur l'autre.
Donc c'est-à-dire que
l'autre après, le choix,
voilà,
après.
Donc, si tu le fais au corps à corps, c'est un gros désavantage. Si tu le fais à distance, mais après... à bonne distance, c'est bien. Parce que la distance joue sur le fait que lorsque on voit en fait l'attaque arriver sur l'autre personnage, l'autre personnage peut se défendre de différentes manières.
Soit absorber.
Et en fait, plus tu es près de l'autre, moins il a de temps pour créer sa manipulation de défense. Plus tu es loin, plus il aura de temps.
Mais
il n'a qu'un seul essai.
Comment est-ce qu'il peut se défendre à ce moment-là?
Ah, il y a différents types de défenses. Et les défenses sont le plus développées dans le premier épisode, parce qu'en fait, selon les personnages, il y en a un peu plus. Et donc, il y a des parades à 50%, 25%, 0%. Et il y a aussi un renvoi. D'accord, donc les manipulations changent sur les versions, bien qu'à la final elles ont
été moi le renvoi c'était mon préféré dans ces épisodes, puisque ça, il s'agissait en fait de refaire la même attaque, la même grosse attaque, donc il fallait avoir de l'énergie pour la faire.
Exact.
Et après il fallait bourriner comme un ouf sur le bouton.
Alors justement là je t'arrête, le fait de bourriner c'est arrivé avec des BZ2 dans des BZ1.
Oui,
ça
dans des
pas.
BZ2 on
voilà,
est d'accord.
Voilà, c'est ça, parce que dans des BZ1 tu pouvais renvoyer de trois manières différentes, et t'as eu trois parades à 0%, une où tu téléportais, une où tu l'attendais, une où tu renvoyais. Et le renvoi dans des BZ1 en fait l'autre après il pouvait pas le contrer, il pouvait juste refaire une parade à 50% derrière. Mais le renvoi dans DBZ1, c'était un demi-tour arrière-avant plus A. Alors que dans DBZ2 et 3, c'est un quart de cercle arrière en A.
Ouais, enfin,
c'est pas la même manip.
C'est pas la même manip. Mais en tout cas, moi, je sais que j'appréciais beaucoup ce style parce que j'aimais bien bourriner les boutons. Et j'ai regretté après qu'on passe sur les nouvelles consoles à du tournage de stick ou des choses comme ça.
Il y a encore,
encore un dernier type de coup dont je n'ai pas passé, qui sont les Météo Smash, qui sont les coups cachés. Il y a même encore des coups cachés qui ne sont pas des Météo Smash. Et donc, en fait, ces coups-là ne sont pas listés dans l'inventaire, permettent de faire énormément de dégâts à l'adversaire et se font avec les boutons point et pied. Plus avant, une manipulation relativement complexe, généralement.
Heureusement que Tips Magazine existe pour
genre un 360 degrés, genre. Avant, arrière, bas, haut, un plus un bouton, et généralement il faut faire au corps à corps. Ce type d'attaque n'est pas parable et fait très 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 mal. Elle est indiquée nulle part dans les notices, nulle part dans les menus, mais elles existent. Il y a encore d'autres coups spéciaux comme ça qui existent, mais qui sont entre guillemets cachés. Donc chaque personnage a tout un panel de mouvements qui est intéressant. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'évolution du jeu, ces Météo Smash là, ils ont une grande importance. Dans le premier, il n'y avait que Goku Super Saiyan qui en avait un, avec un 270 degrés. Dans DBZ2, ils avaient presque tous les personnages un ce type d'attaque, de Météo Smash. Météo Smash pour le fait qu'on envoie l'adversaire en l'air, puis en bas, puis qu'on donne plein de coups, et puis qu'à la fin, il se crache.
Ah,
ouais, des coups qui ressemblent beaucoup à ce qui se passe dans l'anime. En fait, ils avaient essayé de se rapprocher. C'était pas mal fait pour l'époque sur la Super, je trouve.
C'était même très très bien fait. Et donc, dans DBZ2, il y a juste Minicell et Zangia qui en ont pas, et après, ils en ont tous eu un. Et donc, la différence, pour revenir à ce qu'on disait avant avec Hyperdimension, c'est que Hyperdimension tue un Météo Smash, mais dans Hyperdimension, contrairement aux autres Butoden, tu n'as plus deux barres, tu as une seule barre. C'est-à-dire que ta barre de vie et de force sont cumulées, que si tu fais un Kamehameha, tu vas t'enlever de la vie, mais que si tu veux faire un Météo Smash, tu peux t'en servir que lorsque ta vie est très faible. Donc, comme dans un Garou Densetsu. C'est-à-dire que il y a des joueurs qui vont faire exprès au début de se faire taper pour avoir
pour
très
faire
peu
leur
de vie,
Météo Smash.
Pour faire leur Météo Smash, et ensuite, ce qui est encore plus terrible dans Hyperdimension, c'est que la manière de reprendre de la vie, donc de la force dans les autres jeux, là tu fais reprendre de la vie.
Ouais,
donc
ouais,
c'est le seul où tu peux délibérément reprendre de la vie.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Oui.
Donc c'est le gameplay, il change vraiment.
Il y a toute une stratégie qui peut être en place.
Pour moi, Hyperdimension, il est vraiment vraiment à part des autres, quoi.
Autant, oui, il a un style totalement différent, effectivement.
Voilà. Alors, autant les évolutions que moi j'ai pu noter entre Dragon Ball Z, l'Action Game 1 et le deuxième, donc entre Super Butoden 1 et 2, ben, d'une part, c'est qu'on a moins de persos cachés, ok. Le jeu, par contre, il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus beau, beaucoup plus moins mania, beaucoup plus rapide, beaucoup moins rigide et enfin beaucoup moins brouillon. En fait, il a été mieux réalisé. C'est une version du jeu comme on aurait envie de l'avoir dès le début. On a effectivement la possibilité de bourriner pour envoyer les super attaques, ce que tu disais avant, ça c'est super. clair, que tous les personnages ont été mis au Smash, c'est génial, qu'on voit une vraie différence de taille entre les personnages. Minisal, il est tout petit, Broly, il est géant, quoi. Et donc la force aussi. Donc même les super coups, ils n'auront pas le même impact que les autres. Ça, c'est aussi génial.
Mais en contrepartie, comme il est plus petit, il y a certaines boules de feu qui peuvent passer au-dessus ou certains
aussi,
coups. Hein.
Aussi, ouais, il peut même se balader comme ça à pied en dessous des autres, quoi.
À la stratégie, hein.
Ouais, parce que souvent, en fonction des caractéristiques, il peut y avoir des personnages qui avantagent ou désavantagent.
Ah, tout à fait. Tout
donc
à
il
ne
faut pas tomber non plus
Goku
dans ce
piège-là.
Goku est
toujours le meilleur. Goku est toujours le meilleur. Ne cherchez pas, Goku, c'est le personnage ultime.
Il y a dans ces jeux de baston ce qui s'appelle dans le milieu une tier list où on place en gros les personnages par ordre de puissance. Et donc il y a certains personnages et ils font des statistiques en fonction du nombre de victoires et de défaites des personnages.
Ça, c'est discutable. Et en fait, tu verras que si tu consultes vraiment ces listes-là, le personnage le plus fort de DBZ2, c'est Bojack. Parce que Bojack, quand tu sais bien le manier, il a un enchaînement qui est absolument imparable et qui peut faire très, 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 très mal. Et le trick est très long. Mais en contrepartie, moi, je pense vraiment que Goku est plus fort parce qu'il a des attaques qui font très mal. Il a des contres.
C'est le héros du jeu.
C'est le héros aussi, mais c'est aussi un des personnages cachés.
Ah, à la base, dans Dragon Ball Z, c'est pas le héros, c'est censé être Sangohan le héros. Mais bon, comme il est. Ouais, bon. Il passe généralement son temps à pleurer dans les premières saisons.
Mais le plus beau, c'est quand même Jack.
Bon, moi je reviens au jeu. Hein, donc, dans DBZ2, en fait, on a un vrai mode histoire. Dans DBZ1, il y avait déjà un mode histoire où on choisissait juste qui combat qui. Alors, dans DBZ2, on peut choisir un héros qu'on suit durant toute l'aventure, créer une aventure qui sort de la série parce qu'on va dans les OAV, et surtout faire des combats qu'on n'a jamais vus avant et recréer l'histoire. Et on a aussi un mode difficulté, donc c'est un vrai mode histoire. Et ça, c'est vraiment génial. On a la disparition, en fait, que les personnages sont super saiyans ou pas. Il y a beaucoup plus de cheats. On a un mode hyper tournoi. On peut faire dire n'importe quoi aux personnages. On a plus de vitesse de jeu. Le radar, on peut
faire
éclairer du radar.
Les personnages, leur faire dire tout et n'importe quoi?
Ouais, en fait, quand tu gagnes un combat, à la fin, t'as un commentaire de victoire. Et tu peux changer ce commentaire de victoire avec un code, genre select plus A.
D'accord.
Et tu peux vraiment mettre n'importe quoi.
Ben, t'as différents types. L'un, c'est arrogant. L'autre, c'est n'importe quoi. Enfin, tu peux.
En fonction du caractère qu'il va avoir en fin du jeu.
Tu peux choisir en fait. Il y a pas un seul commentaire. Tu peux choisir le commentaire qui va faire sur la suite.
Ah d'accord.
Tu peux aussi choisir d'abandonner. Tu peux faire plein de choses. Tu peux aussi contrer, par exemple, une attaque que tu pouvais pas avant. Genre le mec te projette, tu fais deux fois R, deux fois L, tu reviens dessus avec un pied ou des choses comme ça. Donc t'as plein d'évolutions qui ont fait que moi, ben, j'adore ce jeu et je trouve que c'est le meilleur.
C'est le genre de jeu où on peut pas bourriner n'importe comment pour pouvoir gagner en gros.
Non. Et maintenant, par contre, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les suivants, moi, je les ai moins aimés. Parce qu'il y a quand même une raison, tu vois. Je veux dire, autant entre le 1 et le 2, j'ai dit beaucoup de choses positives, autant entre le 2 et le 3, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben, ils ont enlevé le mode histoire. Berk, point noir.
Ouais, bon, bah ça.
La fin du jeu, tu l'as uniquement si tu finis le mode tournoi, sachant que le mode tournoi, c'est un des rares modes de jeu que tu peux faire. Ouais, super, ça sert à rien. On peut faire, par contre, plus qu'un seul renvoi sur une méga attaque, genre un Kamehameha. Aussi longtemps que t'as de la force. J'ai pas trouvé ça super parce qu'au final, en fait, comme ta force monte automatiquement, c'est bof. Donc moi, j'ai pas trop aimé. On peut aussi changer de plan au corps à corps. Avant, on pouvait pas. C'est-à-dire que si tu voulais monter, descendre dans les airs, fallait que l'écran soit splitté. Si t'étais pas splitté, tu pouvais pas. Là, dans le 3, tu peux. C'est du détail.
Ouais, ça permet à quelqu'un de fuir s'il a pas envie de rester au corps à corps.
Moi, je trouve que c'est trop de fuite. J'aime pas vraiment. On peut augmenter la personnage des combattants avant le début du combat quand ils parlent. Et ça, c'est tout simplement abusé parce qu'ils sont devenus trop forts. La puissance de tes coups de poing.
D'accord.
Tu fais une manipulation avant le début du combat, tu vas taper 4 fois plus fort que l'autre. Tu mets une simple claque, il va perdre 4 fois plus de vie que si toi tu lui en mets une.
Ouais, bon, ça c'est du cheat. Enfin, ça, c'est
ouais, c'est du cheat, mais quand tu joues à haut niveau, tu peux pas l'enlever ce truc là.
D'accord.
Donc, quelque part, je trouve ça nul quoi.
Il n'y a pas rien qui indique dans le jeu qu'on a joué avec un personnage qu'on a mis en bois.
Non,
bon, enfin, les pros
le savent
quand même.
Si tu as réussi ton code, au niveau de la cinématique d'introduction, en fait, il va avoir une aura qui va être différente, qui va changer de couleur. Et donc là, tu pourras voir s'il est boosté ou non. Donc tu pourras voir quel personnage est boosté ou non, mais je veux dire, c'est trop abusé, quoi. Et donc, t'as aussi moins de personnages cachés, t'as juste Trunks adulte en personnage caché, un seul. En fait, moi, ce jeu, j'ai envie de dire que c'est une version 1.1 de Super Butoden 2 et qu'il apporte rien. C'est-à-dire que si les gens ont vu Butoden 2, menace, il apporte que dalle, quoi.
C'était un peu mon impression parce que j'avais à l'époque pris assez tardivement ces jeux en main. J'avais très accroché sur le 2, effectivement. Et quand j'ai essayé le 3, je me suis dit, oui, bon, bah, je retourne au 2, quoi. En fait, il y a rien de plus.
Le 2, t'as le mode aventure, tu peux créer des clones, tu peux voir d'autres personnages. T'as Broly, quoi. Broly, le gardien légendaire,
ouais,
bordel.
Voilà, c'est ça, c'est quand même le personnage un peu mythique du jeu, quoi. Je veux dire, c'est vraiment la série, c'est quand même le personnage bourrin par excellence.
C'est une légende, ce mec. Voilà, forcément, t'entends.
C'est le saiyan légendaire, n'est-ce pas?
Il est hyper plus fort, donc du coup, que les autres.
Il est le saiyan légendaire.
D'accord.
Il est super saiyan légendaire, mais dans le jeu, en fait, il est aussi fort que Goku. Mais il a des attaques qui font très, 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 très mal. Et donc, dans DBZ2, ce que j'ai pas dit non plus, c'est que dans le mode histoire, selon ce qu'on fait, on peut avoir différentes fins et affronter des personnages cachés.
Ça c'est sympa.
Du coup, ça donne une vraie force au mode histoire. Alors que dans le 3, tu l'as pas.
Il y a une durée de vie plus importante.
Voilà. Beaucoup plus importante que tous les autres que j'ai cités. Hein. C'est pour ça que moi je le préfère. Donc après, Hyperdimension en version japonaise, j'ai pas fait le mode histoire, donc je pourrais pas vous le dire. Mais oui. Bon, je sais qu'il y a aussi des combats cachés si on meurt pas.
Le jeu est sympa à jouer dans un autre style. Après, c'est effectivement, il y a le principe de la stratégie de savoir gérer sa vie, puisque la vie, comme tu l'as dit tout à l'heure, la vie et la force étant la même,
c'est
il
pas
faut
la
savoir gérer
chose.
Ses attaques. Mais après, il y a quand même.
Hyperdimension, il apporte aussi d'autres choses. Il apporte le fait que ben, tu joues pas sur un seul plan, mais sur plusieurs. Enfin, je vais essayer de dire ça calmement et d'expliquer ça simplement. Avant, tu pouvais monter et descendre avec un écran splitté. Dans oui. Hyperdimension, l'écran splitté, c'est fini, cela n'existe plus.
Exact.
Par contre, avec les boutons L et R, au lieu de faire des déplacements rapides, tu peux aller genre au fond de l'écran, esquiver une attaque et ensuite revenir devant
oui,
faire une attaque.
T'as une profondeur voilà. Dans l'écran en fait.
Et cette profondeur d'écran, c'est un copier-coller de ce qu'on avait dans Garou Denzetsu, une fois de plus, comme les Furies de Fatal Fury, qui est la même série, sinon japonais et européen. Et donc, c'est la même chose une fois de plus.
Oui,
c'est-à-dire qu'ils se sont vraiment inspirés dessus, mais à 200%.
Ouais.
Pareil, comme t'as pas le coup des plans monter-descendre, ils ont transformé le bouton plan. Si tu fais quart de cercle plus bouton plan, ça va donner un coup spécial, tu vas enlever de la mine dans les airs. Et donc d'un coup, les deux se battent dans les airs.
D'accord,
mais
oui,
c'est pas comme avant où tu pouvais choisir où tu voulais aller, tu le fais avec un coup.
Il y a moins de liberté.
Il y a beaucoup moins de liberté. En contrepartie, ce qu'ils ont changé, c'est que eh ben, on peut faire des enchaînements beaucoup plus puissants. Parce que dès lors que l'ennemi quitte le sol, eh ben, tu peux continuer à enchaîner. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais pas. Avant, tu mettais un ennemi au sol, il restait au sol et ainsi de suite. Il fallait que t'envoies une autre attaque, il soit imparable pour lui, inversement.
Il y a aussi des grosses attaques dévastatrices aussi.
Voilà.
Genre les Big Bang Attack, des trucs comme ça.
Ouais, mais c'est l'équivalent
des Météo Smash.
Ou des Furies, quoi. Mais dans des BZ d'hyperdimension, ce qui est super important, c'est que ben, maintenant, tu vas faire point pied avec Vegeta, ben, ton personnage, tu vas le monter en l'air. Une fois qu'il est en l'air, tu peux continuer à enchaîner avec autre chose. Donc, faire des enchaînements très forts et imparables. Mais il faut arriver à les sortir, il faut les connaître. Donc, ça change totalement la physionomie du gameplay du jeu. C'est
oui,
ça qu'il faut retenir.
Il faut être accro pour jouer à ce jeu.
Totalement. Donc moi, ce que j'aimerais dire en fait sur DBZ2, c'est qu'il y a du fan service assuré, c'est certain. Il est, pour moi, c'est le meilleur. Il n'y a pas à chercher plus loin que ça.
Bon, ça peut être discuté par les fans, effectivement.
Il y en a
qui ont préféré Hyperdimension parce que voilà, mais effectivement, entre les trois Butoden, moi, je trouve qu'il y a pas photo, quoi.
Il y a aucune photo possible. Après, j'ai encore des détails à dire sur le jeu, mais je pense que
le temps est trop court,
donc voilà.
Tu pourras en te laissera un petit peu la parole après.
Un tout petit peu, j'en ai vraiment pour deux minutes à dire, même pas deux minutes, même une minute, même pas.
Bon,
une minute.
On n'oublie pas la musique, on continue, on va s'écouter Bojack Stem et ensuite on se retrouve pour le reload avec Ellie.
M55, un maximum de musique,
un maximum de musique.
M57 Radio,
Hits and Move.
Hits and Move.
Dans Try Again, on va attaquer la partie reload. Encore un petit peu de patience avant de gagner les CG codes offerts par Culture Games. Et avant de donner la parole à Ellie, on va laisser encore une petite minute à Martin.
Vraiment très rapide, j'aimerais juste dire en fait qu'en France, ce jeu il a eu un énorme succès parce qu'il collait pile poil avec la diffusion du dessin animé en France. C'est-à-dire qu'au moment où on a eu le jeu, et ben, il y avait les épisodes sur celle qui passe à la télévision, donc c'était juste énorme.
Ça tombe bien. Hein.
Ça, c'est fantastique. Il faut aussi dire que le jeu à l'époque, ben, les magazines français qui l'ont testé ont eu la chance d'avoir une version avant la diffusion et donc ils ont été remerciés en générique de fin. Donc on peut retrouver à l'époque des testeurs français qui ont été remerciés. J'aimerais les citer pour avoir revu la fin du jeu et juste donner quelques vieux souvenirs aux gens. Donc Alain HL, Sam, Iggy, Crevette, Gambas, alors que c'était Goombas, pas grave, Pedro, J'aime Destroy, Franck et Sushi. Donc moi là-dedans, j'ai reconnu des testeurs de Joypad, Player One, Nintendo Player, Console Plus,
Et c'est ouais, déjà tous pas les mal. Bons magazines de l'époque.
Les gros classiques. Donc ça, je pense que c'est un plus pour les gens comme moi qui à l'époque étaient à fond dans leur magazine et tout et qui adoraient lire « Ah, le dernier jeu sorti est trop bien et tout, c'est mon testeur préféré ». Donc pour la traduction française, elle était pitoyable. J'ai noté quand même quelques exemples et je vais vous en faire part. Quelle tête, Gohan est devenu punk. Tout ça pour dire que Gohan était devenu super saiyan.
Mais c'est ça, le problème c'est qu'on donne les traductions des jeux vidéo voilà. à faire à des gens qui connaissent pas l'univers.
Ensuite on a Gohan.
Enfin, à l'époque.
Gohan est parti au stade jeu. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Il est parti au stade jeu. Il va au parc.
Non, en fait, il est parti affronter Cell au jeu de Cell.
Ah oui, d'accord, Cell Game quoi.
Dans le stade, il y a d'autres Z.
Alors en fait, ça sous-entend que
voilà, Tenchinan, Yamcha, Vegeta, tout le bordel.
Ah oui, donc en fait, c'est l'équipe de
parce que
c'est
quoi.
Ouais, d'accord, parce que dans Dragon Ball, c'est l'équipe des rien du tout et maintenant c'est l'équipe des Z parce que c'est Dragon Ball Z.
Voilà, et ensuite il y a une super phrase, attention, je prends l'étoile.
C'est-à-dire qu'il devient invincible, c'est ça? Il devient Super Saiyan?
C'est Aki qui en fait sous-entend qu'elle récupère une Dragon Ball.
Ah, en tout cas, elle est pas dans la lune, hein, c'est quoi ça?
Kaio, ils l'ont quand même traduit par gardien, donc c'était des petits détails que j'avais encore à dire à quel point le jeu il est juste, enfin il est énorme, mais quelque part mais, des fois ça fait rire.
Mais après ça devient culte ce genre de choses, c'est comme le débat sur Ken le survivant quoi.
Enfin, c'est une horreur, ils l'ont massacré.
Mais voilà, c'est pareil.
C'est les seuls qui ont arrivé à massacrer Ken le survivant.
Donc voilà, moi je pourrais encore dire comme ça plein de choses sur DBZ2, mais je vais m'arrêter là parce que je laisse la parole à tout le monde.
Parce que sinon on va lui massacrer ce Reload à Ellie. Donc...
Et puis il y a quand même des choses à dire et tu l'as pris.
Allez, vas-y.
Alors donc dans cette partie Reloaded, j'aimerais parler un petit peu après du succès des animés de Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, un petit peu des films. Donc.
Desquels ?
Il y a eu plusieurs films, plusieurs adaptations, mais qui étaient, je pense, un petit peu moins bonnes
que les
animés. Alors, il y a eu d'abord Dragon Ball, qui est un film d'action non officiel coréen, qui est sorti le 12 décembre 90.
Distribué chez TF1 Vidéo, trouvable en DVD.
On va tous le chercher, Martin.
Non, mais je l'ai chez moi, c'est bon.
Pour ceux qui l'ont vu, on retrouve quelque chose comme le nuage magique, on retrouve...
Le bâton magique, Tortue Magique.
Ouais, mais bon, c'est pas super bien fait, c'est pas super bien joué.
Il faut s'armer du ruban rouge, c'est ridicule. En fait,
ça ressemble.
Le regardez pas sobre.
Ça ressemble un peu à du sort, hein, c'est ça. Hein.
Non, mais c'est ça, faut prendre non, non, même au millième degré, c'est mieux, quoi. Ouais. Je veux dire, ce genre de film, c'est clair.
D'un autre côté, il est sorti en quelle année?
Il est né en 90.
Ouais. La danse de Tortue Géniale est la seule scène qui vaut le déplacement et je ne serais pas le seul à vous le dire.
D'accord, j'aurais excusé si c'était les années 80 ou 90.
Oh. Bon, dans les années 80, donc un tout petit peu avant, un an avant, en 89, il y a Dragon Ball, le film qui est sorti, La légende des 7 boules de cristal. C'est un film philippo-taïwanais. Et je le connais pas des masses, mais il a pas beaucoup fait parler de lui. Hein. Ça doit être un peu dans le même genre.
Philippo-taïwanais.
Ouais.
Je me demande si c'est pas celui-là alors que TF1 édité et pas l'autre que t'as dit en 90 parce que je vois pas la nuance entre les deux.
Ouais. Bon, ils ont pas fait beaucoup
Cherchez
de vagues.
Si
hein.
ça vous intéresse.
Ok, non mais moi j'en vois qu'un seul des deux là en fait.
Ouais. Sinon, il y a eu très récemment un film américain qui est sorti qui s'appelle Dragon Ball Evolution. Donc 1er avril 2009 en France.
Oui. Je ne ferai aucun commentaire, je vais le voir à la sortie.
Dragon Ball Evolution.
Ouais.
Mais c'est. Enfin, en fait. Faudrait juste l'appeler Evolution tout court, pas Dragon Ball quoi. En gros quoi.
Non, arrête, tu insultes le film Evolution qui existe aussi.
Ouais, c'est vrai. Bon film. Qui lui était bon par contre.
Et sans beaucoup qui n'aiment pas se battre dans Dragon Ball Evolution, c'est relativement surprenant.
Ouais, qui n'aime pas se battre, qui drague les filles alors qu'il sait même pas ce que c'est dans la série. Ouais. Mais bon.
Si je comprends bien, ça peut être un bon film à condition qu'on oublie que c'est Dragon Ball quoi.
Voilà, si tu es fan de la série, tu n'aimeras pas le film. Si tu connais pas la série, tu pourras peut-être l'apprécier parce que tu diras ouais, ça peut être c'est marrant.
Les effets spéciaux sont impressionnants quand même.
C'est ça, pardon. Je pense.
Oui, c'est du Hollywood. C'est... Pardon c'est... Non mais tu l'as vu le film ou pas? C'est Parce ça. Que moi je l'ai vu hein, et non.
Les acteurs ressemblent à leurs personnages?
Non, ils vont faire une suite, il n'y en a aucun qui ressemble.
Bah c'est les Américains. Hein.
C'est américanisé à fond. Ouais, c'est... Ils ont dû regarder le scénario de la série originale et ils ont dû se dire ah non mais en fait on va juste reprendre les noms des personnages.
Il y a aucun Tenkaichi Budoka, il rate toute l'armée du ruban rouge et il va directement combattre Piccolo Daima à la fin. Arrêtez conneries.
Ouais non mais c'est ça, c'est on prend la série, on enlève tout ce qui bon,
on voit ça tout ce qui est bien.
Et on reprend juste les noms des personnages.
C'est un carnage.
Et encore pas tous, il y en a même des
et encore ouais, c'est clair.
Mais alors cette semaine nous avons une question de Alex qui demande
encore
Alex, toujours. Merci à toi.
Heureusement qu'il est là parce que sinon on n'aurait jamais de questions dans cette émission, c'est quand même malheureux. Alors, pensez à nous.
Le gameplay de DBZ est particulier voire unique. Il n'a pas toujours été repris ailleurs. Serait-ce parce qu'il est moins bon ou moins accessible que par exemple celui d'un Street Fighter?
Alors, ce que j'expliquais avant, en fait, c'est qu'il est très proche d'un Street Fighter, mais que le jeu en lui-même fait que c'est différent. Il aurait pu être pris si d'autres jeux avaient émis l'idée de refaire ce jeu en splitté,
Splitté. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a quand même un style Dragon Ball. Je veux dire, la série, les combats dans la série, c'est parfois du corps à corps, parfois du combat à distance, des attaques spéciales. Et je trouve que le gameplay, il s'adapte à merveille à cet univers-là.
C'est instinctif.
Il reprend tout. C'est-à-dire, il reprend les projections à distance, la projection, les météo smash qui envoient balles dinguer l'autre à je sais pas combien de kilomètres, qui lui font exploser des rochers. Enfin, des choses du style, quoi. Et ils reprennent vraiment l'esprit Dragon Ball et je trouve que c'est ça qui colle. Alors, effectivement, il n'a pas été repris dans d'autres choses parce que, c'est Dragon Ball. Faut que ça colle avec Dragon Ball.
Ça aurait pu coller, tu vois, avec un univers comme Bastard où ils ont massacré le jeu sur Super Famicom. Là, je sais qu'il y en a qui vont être d'accord avec moi que pour dire que le jeu est moyen, moi je l'aime bien, mais il y en a qui vont le détester, ce jeu-là, je vous l'ai fait essayer.
J'ai préféré l'animé au jeu.
Ouais, et pourtant l'animé il colle pas encore manga papier, mais c'est pas grave. Mais toujours est-il que voilà, ils auraient pu dans d'autres cas, dans d'autres licences le faire, mais ils l'ont pas fait parce que ça pouvait pas coller à l'univers.
Ouais, c'est ça. Donc je pense que le gameplay, c'est pas qu'il est moins bon ou il est différent parce qu'il s'adapte à la série et qu'il est qu'il reprend tous les éléments, le personnage qui se concentre pour récupérer de l'énergie, qui lance des attaques dévastatrices. Je trouve qu'il y avait
d'autres grandes séries du shonen qui avaient le même style d'attaque comme Yu Yu Hakusho ont été aussi adaptées en jeu vidéo et en jeu de baston, mais là ils étaient effectivement très proches d'un DBZ avec du quart de cercle, les choses comme ça, mais que du jeu au corps à corps, pas du jeu à grande distance. Ouais. Et c'est ça qui fait la vraie différence.
Du coup, c'est vrai qu'il est un petit peu moins accessible. On va plus avoir tendance à sortir un Street Fighter quand on est entre copains et qu'on n'y a pas tout joué parce que c'est plus facile à prendre en main.
Moi je t'explique comment jouer en moins de 5 minutes, tu arrives.
Il est simple à prendre en main.
Il est plus simple qu'un Street Fighter parce que t'as moins de priorités, moins de choses à cocher.
Je suis pas sûr parce que Street Fighter, tu peux te démerder même quand tu connais pas trop, alors qu'un DBZ, si tu n'arrives pas à faire les cartes de cercle, si l'autre il maîtrise, t'es un petit peu.
C'est vrai que les cartes de cercle, ça peut être destructeur de pouces quand on n'est pas habitué. Il faut avoir de la corde.
Aujourd'hui tout le monde sait les faire, quoi.
Oui, aujourd'hui tout le monde sait les faire, mais c'est vrai qu'à l'époque.
Mais Sinelli, même toi, fais-moi un grand sourire.
Bon, après, les cartes de cercle ou les demi-cercles. Ou les quarts de cercle avant ou quarts de cercle arrière.
Quand tu regardes les furies des derniers Street Fighter, un triple tour plus un bouton, c'est moins simple à sortir qu'un quart de cercle.
Ça dépend aussi si Ellie il a changé les configs des manettes. Parce que là, ça devient plusieurs.
Dans DBZ, il peut pas.
Mais non, voyons. D'accord, chouette.
Ça, c'est bien.
On va jouer à DBZ.
Ah. Ouais, s'ils ont moins de boutons, ils sont bien placés, il n'y a pas de souci. Dans Street Fighter, j'aime bien les modifier pour que ça corresponde bien. Alors, j'ai une question de Devil Sputnik qui demande est-ce que. Dans Dragon Ball Z, c'est pas un petit peu le Superman japonais, si on veut, Son Goku.
Je ne répondrai pas à cette question.
Ils ont tous les deux des super pouvoirs, très rapides, très forts, quasiment invincibles. Invincible, hein.
On est d'accord que il n'est pas invincible. Goku n'est pas invincible.
Mais non, il meurt plusieurs fois dans la série.
Il meurt plusieurs fois dans la série.
Il n'a pas de kryptonite.
Bon, non, tu vas me dire Superman aussi il meurt, mais
Superman n'est pas invincible non plus.
C'est tiré d'une légende japonaise, d'une légende chinoise. Qu'est-ce que tu veux que ça aille faire avec Superman?
Non, mais dans les deux cas, c'est quand même des super balèzes, quoi.
Oui, mais c'est des super balèzes. Mais dans ce cas, tous les super héros, on les met dans le même sac.
Non, mais là, c'est au-dessus.
Effectivement, au-dessus d'un super héros.
Les super héros habituels, ils sont quand même.
C'est le grand débat. Qui c'est qui serait le meilleur entre Superman et Son Goku?
Mais pense que c'est qui le plus rapide, Flash ou Superman?
Voilà, comme on va dire que comme on n'est plus à la cour de récré de Superman. La maternelle, on va laisser ce débat aux gens.
Moi, je répondrai pas.
Divers et variés.
Alors, maintenant, le manga qui est beaucoup à la mode, c'est Naruto. Parce qu'il a remplacé Dragon Ball, qui était vraiment la référence, je trouve.
C'est une question, ça ?
Non, c'est pas une question.
Une réflexion.
C'est vrai que moi, j'ai pris la relève. J'avais un peu suivi l'histoire de Shonen Jump, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et après l'arrêt de Dragon Ball, de la diffusion de Dragon Ball, forcément, quand c'était fini, c'était fini. Il y a eu une grosse baisse des ventes de Shonen Jump au Japon. Il y avait une autre série phare qui s'est arrêtée plus ou moins en même temps. Un truc beaucoup plus vieux qui avait fini de diffuser en 95 également, dans les années là. Et il y a eu une grosse baisse des ventes et effectivement Naruto a repris un peu le relais au niveau d'une série phare, quoi.
Okay. Donc c'est C'est la génération d'après, la relève.
C'est la next gen.
Bah écoutez, c'était une très belle conclusion. On va tout doucement s'approcher de la fin. Donc il est le moment pour moi de vous donner le fameux CG code que vous avez attendu pendant toute la soirée. Et ce soir, le CG code, c'est Cyan, S-A-I-E-N. On a simplifié, pas de tréma. Vous tapez un I, ouais. Tout en minuscule, S-A-I-E-N. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas qu'on a nos pages Facebook. Vous pouvez nous contacter partout sur M57, sur les pages Facebook,
sur des forums.
Voilà. Et puis on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour Génération Press Start, Try Again. Un mot de la fin ?
Ben écoute, moi je vais dire au revoir à tout le monde. La semaine prochaine, Nelly, je crois que tu nous parleras des Sims.
Des Sims, ouais. Magnifique. Ne fuyez cool. pas, s'il vous plaît, restez.
Non, on va rester. Mais oui, c'est un presque bon jeu.
Voilà.
Ben, on se donne rendez-vous la semaine
Salut
prochaine.
Tout le monde.
Et
Bisous
on se quitte avec un dernier thème, toujours conseillé par Yamamoto Kenji, le Tlangsun au thème tiré de l'OST. Et attention, ça déchire, c'est la meilleure musique de la soirée. Écoutez-la, ça défonce.
C'est jusqu'au bout. Bisous tout le monde, au revoir.
Ciao, ciao.
Salut.
M57 Radio. M57 Radio.
Avec culturegames.com. Game over.